Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis bien contente d'être ici pour parler encore de ce très beau sujet. De retour à Rouen, oui. Sur cette question de la laïcité. Alors, on peut, c'est vrai, envisager, et ça se fait très souvent, on peut envisager de présenter la laïcité en mettant en lumière la liberté religieuse, la liberté de culte, en mettant en lumière l'expression des convictions, l'expression des croyances, et même, pourquoi pas, ces tendances, comme on dit, en mettant en lumière le vivre ensemble. On parle énormément de vivre ensemble. Je ne le ferai absolument pas, moi. Mais voilà, vous verrez. En mettant en lumière donc le vivre ensemble, qui est à la mode aujourd'hui et qui est aussi une expression très commode. Voilà. Alors, il est certain qu'il existe un lien entre laïcité et liberté, puisque, je le développerai tout à l'heure, depuis 1905, la laïcité est la condition de deux grandes libertés que sont la liberté de conscience et la liberté de culte. Mais on peut aussi envisager, c'est ce que je me propose de vous présenter, on peut aussi envisager une réflexion sur la laïcité autour de la question des frontières de la laïcité, et ce pour diverses raisons. Alors la première raison, c'est parce que la laïcité établit elle-même une frontière, elle est frontière. Elle est frontière parce que, de par sa construction historique, au niveau notamment juridique, elle a abouti, vous le savez, à la loi de 1905, l'article dans la Constitution qui présente la laïcité comme étant une valeur de la République, mais qui est également un principe juridique, c'est l'article 1er. Alors, il est important, cet article 1er de la Constitution. C'est un article qui est libellé ainsi, qui dit que la France est une république laïque. Alors, ce qui est laïque, c'est la République, ce n'est pas la France. Je tiens énormément à cette première approche de l'article 1er de la Constitution. N'en déplaise aux tenants d'une supposée identité culturelle laïque française, ce n'est pas la France qui est laïque, c'est le Front National, le Rassemblement National, qui véhicule depuis quelques années cette idée que la France est laïque. Non, c'est la République qui est laïque, et dans le texte, c'est noté ainsi. Je vais faire une petite parenthèse avec l'article 2 de la Constitution. Je vais faire un parallèle. L'article 2 de la Constitution est important, c'est celui qui présente les symboles de la République. Et un des symboles de la République, c'est la langue. Et la formulation est la même. Il est indiqué « la langue de la République » et le français. Et c'est certainement pas la langue de la France. Et donc pour moi, c'est très important de commencer par cette appréhension-là juridique, hein, puisque c'est ainsi que c'est noté dans l'article 1er. La res publica, c'est la chose publique, c'est la chose commune. Et donc ça signifie que la laïcité ne s'applique qu'à la chose commune. On le verra, elle ne s'applique qu'à la sphère publique. Et la construction historique de la laïcité, elle est incontestablement liée à la construction de la République. Il y a un lien indissociable entre République et laïcité. Et cette construction historique a permis de garantir la cohésion nationale, qui n'était plus définie comme une communauté de croyances. Voilà, ça c'est toute la progression et la construction historique de la nation autour de la République. Et la construction républicaine a inscrit la laïcité dans ses institutions à travers le principe de séparation, c'est-à-dire à travers le refus par l'État de toute sujétion envers les églises. Au sens strict, j'y reviendrai aussi, la laïcité suppose la séparation entre ce qui relève du domaine de l'État, de ce que l'on appelle la sphère publique, et ce qui relève de la conscience individuelle, ce qui relève de l'ordre privé. C'est ainsi que la loi de 1905, appelée loi de séparation de l'État et des Églises, est la clé de voûte de la laïcité en France. Je signale que la Cour européenne des droits de l'homme, qui est régulièrement et souvent saisie à propos de questions relatives à la laïcité ou à la neutralité dans les services publics en France, a toujours dit que la loi de 1905 était la clé de voûte de la laïcité française. Alors c'est important parce que pendant des années, beaucoup de juristes notamment ont douté que la loi de 1905 soit le socle de la laïcité. Donc elle est indissociable, cette loi de 1905, du principe de laïcité. La laïcité donc suppose que soit établie une frontière entre la sphère publique, c'est-à-dire celle qui concerne l'ensemble de la nation et qui a pour objet ce qui est universellement partagé, et la sphère privée qui est la sphère des individus, la sphère des communautés, la sphère des entreprises, la sphère des groupements libres dans le respect de la loi. Et l'indépendance de ces deux sphères, sphère publique et sphère privée, est garantie par l'État et garantie par la République, qui se refuse, alors d'un côté, à imposer une doctrine, qui se refuse à imposer une croyance particulière, mais qui incarne aussi, d'un autre côté, l'unité, et ça c'est très important, l'unité de la communauté politique et qui en promeut les valeurs communes. Et cette séparation entre sphère publique et sphère privée, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me paraît fondamental juridiquement pour expliquer ce qu'est cette laïcité. Et au sens strict, je reviendrai après sur la construction historique, au sens strict, le principe de laïcité suppose, à travers la séparation plus importante, plus fondamentale entre l'État et la société civile, elle suppose l'autonomie de la puissance publique en charge de la communauté politique et l'indépendance de la société dans laquelle les individus, les personnes morales, les églises, hein, toute personne physique ou morale, sont libres de poursuivre leurs intérêts particuliers, bien sûr, dans le strict respect de la loi et de l'ordre public. Et cette distinction entre les deux sphères est opérée par l'État. C'est pour ça que moi, je ne suis pas partisane de dire que la laïcité est un pacte. Vous savez qu'il y a des auteurs, voilà, qui ont expliqué que la laïcité était un pacte. La laïcité n'est pas un pacte, c'est l'État qui, par un acte administratif unilatéral, à un moment donné, il se trouve que c'était en 1905, a décidé de séparer, voilà, d'opérer cette frontière entre les deux sphères. Même si, effectivement, la loi de 1905, vous le savez, hein, n'a pas été, a été revue, a été corrigée, notamment au niveau des, du statut des associations cultuelles, hein, ce qui avait déplu au Vatican, etc. Mais enfin, ce qui n'a jamais été négocié, ce qui n'a jamais été changé, c'est ce principe de séparation entre les deux sphères. Cette frontière, pour préciser, c'est la frontière qui est établie entre l'intérêt général, qui relève de la sphère publique, et l'intérêt individuel ou les intérêts collectifs, qui relèvent de la sphère privée. Alors, cette construction pour arriver à la loi de 1905 s'est faite depuis très longtemps. Hein. Le législateur n'a pas décidé à un moment donné, hein, comme ça, n'a pas tout inventé en 1905. Et je voudrais reprendre les grandes phases, voilà, les deux grandes étapes, et c'est la première qui me paraît la plus importante, qui ont permis à cette laïcité de pouvoir être consacrée. Alors, la première étape fondamentale, c'est celle qui part de 1789 jusqu'en 1905. Alors, l'apport de la Révolution de 1789 est absolument crucial. Il y a, me semble-t-il, deux grands apports en 1789. Le premier, c'est ce que l'on pourrait appeler, alors, soit la sécularisation ou la laïcisation de l'espace politique et de l'espace social. C'est-à-dire que l'espace politique est un espace qui se forme en 1789, qui prend en compte le citoyen, et une des preuves de cette laïcisation, de cette sécularisation de l'espace politique, c'est que lors de la première constitution française, celle de 1791, c'est une monarchie constitutionnelle qui est établie, le roi est encore là, mais le roi devient un représentant de la nation. Donc, ce qui est important, hein, dans cette laïcisation de l'espace politique, c'est le fait que la souveraineté n'est plus une souveraineté divine, comme elle l'avait été depuis des siècles. Elle devient une souveraineté nationale. Et donc, on coupe le lien légendaire qui existait entre le monarque et Dieu. Et ça, c'est un apport très important. Laïcisation de la société, alors elle n'est pas très importante en 1789, c'est le fait de considérer que certaines activités de la société civile, qui depuis très très longtemps étaient prises en charge par l'Église, sont considérées comme des activités d'intérêt général et donc doivent être prises en charge par l'État. Alors il n'y a pas énormément d'activités qui seront érigées en service public à cette époque-là, mais il y en a deux principalement. c'est l'école, bien évidemment, et ce n'est pas pour rien que les premiers projets d'instruction publique en Dorset, notamment, datent de la Révolution, et l'assistance. Mais là aussi, l'État a un projet politique, il commence à considérer que certaines activités relèvent de l'intérêt général, donc relèvent de la res publica, relèvent du bien commun, et donc doivent être prises en compte et prises en charge par l'État. Donc ça, c'est la première chose importante, ces deux mouvements, ces deux constructions. Construction d'un espace politique, on ne parle pas de laïcité encore, hein, mais il y a quand même cette idée sous-jacente, et puis sécularisation de la société. Le deuxième apport de la Révolution, qui est absolument capital, c'est la proclamation de deux grandes libertés. Alors la première grande liberté, c'est celle qui est inscrite à l'article 10 de la Déclaration de 1789. Nul, alors c'est la liberté d'opinion, hein. Pardon, c'est la liberté de conscience, je vous le dicte. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses. Ça c'est intéressant, cette formulation. Pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc pour la première fois, la liberté de conscience est proclamée dans la déclaration de 1789 et l'adverbe « même religieuse » est très intéressant. Pour moi, l'analyse que j'en fais, c'est que l'opinion religieuse, donc la croyance, se retrouve au même niveau que les autres opinions. Elle n'est pas plus importante, elle ne l'est pas moins. Et c'est surtout que, voilà, elle est consacrée. Donc on n'est plus dans un régime de tolérance comme c'était le cas jusqu'alors. On est vraiment sur la liberté de conscience. On a la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion. Mais on a aussi la liberté de penser. On a donc la liberté de conscience politique, philosophique et religieuse. Mais le religieux est mis au même plan que les autres opinions. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me paraît fondamental. Parce que, me semble-t-il, aujourd'hui, l'opinion religieuse est pour certaines personnes plus importante que les autres opinions. Voilà, et on réduit souvent la laïcité à une question religieuse, à une question de croyance, alors que la première liberté, c'est vraiment la liberté de conscience, qui, bien évidemment, n'est pas uniquement une liberté de conscience religieuse. Donc ça, c'est la première grande liberté. La seconde, c'est celle qui a été proclamée donc en 1791, et la Constitution donc de 1791, je vous le dicte, confère la liberté à tout homme d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. Donc cette seconde liberté, c'est la liberté de culte que l'on confond parfois avec la liberté de conscience. C'est pas du tout la même chose. La liberté de culte, c'est juste le fait d'extérioriser ses croyances. Voilà, donc la liberté de culte, il y a tout un régime juridique très très particulier qui s'attache à la liberté de culte. On peut exercer son culte individuellement, collectivement, à l'intérieur des édifices cultuels, à l'extérieur des édifices cultuels. Donc c'est un régime très compliqué, très très important, mais vraiment la liberté de culte, ce n'est pas la liberté de croire, c'est la liberté de manifester ses croyances et de s'adonner à des rites ou de former des communautés religieuses. Donc ce sont vraiment deux libertés différentes et vous remarquerez parfois que dans les articles ou dans les discours sur la laïcité, très souvent il est fait mention de la liberté de conscience et de culte. Non, ce ne sont pas les mêmes libertés. Il y a la liberté de conscience qui a un régime juridique particulier. Il y a la liberté de culte qui fait l'objet aussi d'un encadrement juridique tout à fait différent. Et donc ces deux libertés ont été proclamées en 1789. Et pour finir sur cet apport de la Révolution, quand on regarde le titre de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, vous le connaissez, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc ça veut donc dire, là aussi, si on analyse un petit peu les termes, qu'un individu, une personne, a des droits en tant que citoyen, c'est-à-dire a des droits en tant que citoyenne dans cet espace politique, mais il a aussi des droits en tant qu'individu, donc dans la sphère intime ou dans la sphère sociétale. Et donc même si en 1789, le mot laïcité n'existe pas, hein, on ne proclame pas la laïcité, il y a en germe déjà cette séparation entre deux mondes, voilà, entre le politique et le sociétal, et non pas le politique et le privé. Là aussi, il y a des confusions souvent qui sont faites par certains auteurs qui ont des approches un petit peu différentes, qui réduisent la sphère privée à la sphère intime. Non, la sphère privée comprend la sphère intime, mais c'est surtout la sphère hors service public, hors État et hors institution publique, c'est-à-dire la sphère sociétale. Et donc la Révolution a apporté cela, déjà en germe, cette façon, hein, de concevoir ces deux espaces. ces bases-là de la laïcité vont être consacrées de façon objective et de façon beaucoup plus claire, donc avec la loi de 1905, donc loi dite de séparation de l'État et des Églises. Le mot séparation n'est que dans le titre, on ne le retrouve jamais dans les articles de la loi de 1905. Alors je ne vais pas faire l'examen de toute la loi, juste les deux premiers articles, parce qu'ils sont fondamentaux. Le premier article de la loi de 1905 est rédigé à peu près ainsi: la République garantit la liberté de conscience et, alors c'est pas le même mot garantie, et garantit la liberté de culte. Rien de nouveau, ça on le sait depuis 1789 en revanche. C'est vrai que les premiers articles des lois sont toujours les articles les plus importants. Le législateur de 1905 s'engage à protéger ces deux libertés. Donc ça suppose de la part des institutions une action positive. C'est pas uniquement s'abstenir de... Non, il faut qu'ils garantissent ces deux grandes libertés. Mais ça, c'est pas nouveau. Ce sont des libertés que l'on avait déjà depuis la Révolution. En revanche, l'article 2, celui-là, est très important. Et il me semble que c'est celui qui est la marque hein, de notre laïcité. Cet article 2, vous le connaissez, c'est « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Il est magnifique, cet article. Alors, je voudrais m'arrêter sur le premier verbe. « La République ne reconnaît aucun culte ». Parce que là aussi, il y a des confusions souvent qui sont faites. Juridiquement, la non-reconnaissance a un sens très précis. La non-reconnaissance ne signifie pas l'ignorance des cultes. Très souvent, quand on travaille avec des chercheurs étrangers ou quand on a des colloques, etc., très souvent on nous dit « vous, de toute façon, avec la loi de 1905, vous ignorez les cultes ». Non, c'est pas ça, c'est une erreur sur le sens de la non-reconnaissance. Alors la non-reconnaissance, elle s'explique par rapport au régime antérieur, le régime des cultes antérieur, qui était le régime du Concordat, donc issu du Concordat conclu entre Napoléon Ier et le Vatican de 1801. Ce régime, c'était le régime des quatre cultes reconnus. C'est-à-dire qu'en France, de 1801 jusqu'en 1905, il y avait quatre cultes reconnus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le culte catholique, les deux cultes protestants, donc Calvaire, Lutin, et le culte juif, étaient reconnus. Ça signifie qu'ils étaient donc des services publics, gérés par des établissements publics, et donc forcément que les ministres du culte, prêtres, rabbins, pasteurs, étaient salariés de l'État. C'est ça la reconnaissance en droit. Doté, hein, alors comme le statut des fonctionnaires, voilà, il y a une reconnaissance des fonctionnaires à partir du moment où ils ont un statut de droit public. Et donc que fait le législateur en 1905? Il dit juste, nous ne reconnaissons pas les cultes. Ça ne veut pas dire qu'on les ignore, ça veut juste dire que les cultes ne sont plus considérés comme des services publics, qu'ils ne sont plus gérés par des établissements publics et donc forcément, par conséquent, que les ministres du culte ne sont plus salariés de l'État. Mais, comme, et c'est ce qui est indiqué dans l'article 1er, la République doit garantir la liberté de culte, il fallait bien que le législateur trouve un instrument juridique, hein, un moyen juridique pour que les cultes puissent s'organiser. Parce que garantir la liberté de culte, c'est offrir, c'est trouver un instrument pour que le culte puisse s'organiser. À partir du moment où le législateur ne voulait plus que l'instrument d'organisation du culte soit un instrument de droit public, il ne pouvait que décider d'un instrument de droit privé. C'est pour cela que les cultes, depuis 1905, s'organisent sous forme associative. Et là, il y a tout un ensemble d'associations qui existent pour l'organisation des cultes. Donc il y a l'association cultuelle de 1905, il y a les congrégations, il y a alors l'association diocésaine qui est particulière, qui a été créée en 1907, par une loi de 1907, parce que le Vatican avait refusé l'association cultuelle, donc on a taillé sur mesure une association diocésaine pour le culte catholique, et bien évidemment, les mouvements religieux peuvent tout à fait s'organiser sous la forme associative classique de la loi de 1901. C'est pas pour rien que la loi de 1901 précède la loi de 1905. Donc la non-reconnaissance, juridiquement, ça signifie ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le culte cesse d'être un fait public, il devient un fait privé. Ça n'a rien à voir avec une quelconque ignorance du culte. C'est juste dire, à partir du moment où vous n'êtes plus considéré comme des services publics gérés par des établissements publics, vous êtes basculé, voilà, les cultes sont basculés dans la sphère privée, Et bien évidemment qu'ils peuvent s'organiser, sinon il n'y aurait pas de liberté de culte sous forme associative. C'est ça la séparation. Voilà. Enfin, voilà, moi c'est l'analyse, si vous voulez, que je pense devoir tirer de ces textes-là. Ça veut dire aussi que les cultes deviennent égaux. À partir du moment où ils sont relayés dans la sphère privée, ils s'organisent sous forme associative et ils deviennent égaux. Ça, c'est au niveau des principes. Voilà, on sait très bien après que quand l'islam va être plus important en France, il n'y a pas forcément égalité de fait dans l'exercice du culte musulman, ne serait-ce que parce qu'il y a eu des problèmes, et il y a encore des problèmes pour la construction des mosquées. Mais ça, c'est autre chose. Mais juridiquement, c'est très important de penser, de dire que 1905, c'est la privatisation, entre guillemets, mais voilà, le fait religieux devient un fait privé, et les cultes sont égaux. Donc, premier verbe de l'article 2, voilà, la République ne reconnaît aucun culte. Donc, forcément, elle ne les salarie pas et elle ne les subventionne pas. Alors, une association peut tout à fait être subventionnée par des fonds publics, que ce soit par l'État ou des collectivités territoriales, des associations culturelles, sportives ou autres. Mais il y a une condition, ça c'est dans la loi de 1901, notamment dans l'article 6 de la loi de 1901, une condition pour qu'une association soit subventionnée, c'est qu'elle travaille, qu'elle ait une activité d'intérêt général. Or, un culte, par définition, ne défend absolument pas un intérêt général. C'est ce qui justifie ce troisième verbe de l'article 2, à savoir que la République ne salarie aucun culte. Donc ça, c'est l'explication de l'article 2. Après, on verra dans la pratique que les choses ont un petit peu évolué, hein, sous l'impulsion notamment du Conseil d'État, qui valide, même si c'est sous condition, des subventions publiques à certaines associations, alors soit culturelles, soit des associations mixtes. Mais au niveau des principes, moi c'est ça qui m'importe, hein, c'est de revenir aux principes. Et donc, si je devais donner une définition juridique de ce principe de laïcité, je dirais que la laïcité, c'est un principe juridique, mais c'est un principe d'organisation des pouvoirs publics, fondé sur le principe de séparation entre la sphère publique et la sphère privée, pour garantir deux grandes libertés que sont la liberté de conscience et la liberté de culte. On ne sépare pas comme ça, sans but. Si on sépare en 1905, c'est parce qu'on considère, le législateur a considéré, que séparer, c'était le meilleur moyen de protéger la liberté de conscience et la liberté de culte. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu les dictatures, hein, elles ne séparent pas. Il n'y a pas de sphère privée, il n'y a pas de sphère publique, il n'y a pas de liberté religieuse, il n'y a pas de liberté de conscience. Donc j'insiste là-dessus parce que la laïcité, ce n'est pas une question religieuse. C'est une question politique, la laïcité. Et la deuxième chose qui pour moi est importante actuellement, c'est de rappeler que la laïcité, quand on parle de laïcité, on est dans l'ordre des droits de l'homme. On n'est pas dans l'ordre de la culture, on n'est pas dans l'ordre d'une identité, hein, comme je disais. C'est pas une question d'identité, c'est pas une question de culture, c'est une question de droit de l'homme. Alors souvent on me demande, hein, les États européens, est-ce qu'ils ont, il y aurait plusieurs laïcités. Alors je crois pas. Tous les États européens, notamment signataires de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissent tous la liberté de conscience, garantissent tous la liberté de culte. Mais ils ne s'organisent pas de la même façon pour le faire. Voilà. C'est pour ça que la laïcité, pour moi, c'est vraiment une question d'organisation juridique des pouvoirs publics, dans l'objectif de protéger ces deux grandes libertés. Il me semble que la loi de 1905 a parachevé l'évolution en proclamant ces principes. La deuxième étape, alors beaucoup plus rapidement, concernant la construction de la laïcité, c'est celle qui a permis, alors, de constitutionnaliser la laïcité, c'est-à-dire que en 1946, et puis après ce sera repris donc dans l'article 1er de la Constitution de 1958, la Constitution de 1946 a élevé le principe de laïcité au rang constitutionnel. Voilà, elle était, on peut dire qu'avec la loi de 1905, la laïcité avait valeur législative, et puis après, en 1946 et en 1958, elle a été élevée à un rang juridique plus élevé qui est le rang constitutionnel. La laïcité de la République, c'est une chose. Une autre très importante, c'est la laïcité, ou plus particulièrement la neutralité des services publics. République, c'est res publica, chose commune. Le service public, c'est l'intérêt général. Il y a un lien là aussi, c'est la même chose. Le bien commun, la chose publique, c'est l'intérêt général. Donc une république laïque se doit de mettre en place des services publics. Et donc la laïcité, c'est un principe d'organisation de la République. Elle postule la neutralité des services publics. La neutralité, c'est un principe de fonctionnement des services publics. Et la neutralité des services publics, c'est le corollaire, c'est la conséquence logique de la laïcité de la République. Il faudrait mettre à part la question de l'école, voilà, parce que c'est vrai que là, on en parlera peut-être après, la laïcité est rentrée par l'école. Voilà, le premier texte important où le mot laïcité a été employé, c'est avec les lois Jules Ferry l'école. Donc on peut parler de l'école laïque, mais on ne peut pas parler des autres services publics laïques. Juridiquement, on parle de neutralité des services publics. L'école, c'est une chose tout à fait à part. Et alors, c'est pas pour rien que c'est sous la Troisième République que l'école a été déclarée laïque. Parce que la Troisième République, c'est la République qui a vu naître pratiquement tous nos services publics locaux. Tous nos services publics sont originaires, si vous voulez, de cette Troisième République. Et sous la Troisième République, ce processus de sécularisation de la société s'est accentué, et c'est là où on a eu tous les grands services publics. On a eu les grandes lois sur la neutralité des cimetières, on a eu la neutralité, l'école laïque, la neutralité des hôpitaux, on a eu le divorce, enfin voilà, on a eu une laïcisation très importante de la société. Qui dit laïcisation dit création de services publics, donc d'intérêt général. Et ça, c'est indissociable de la construction. Donc, quand on parle de laïcité, il faut toujours, à mon sens, parler de la laïcité de la République et de laïcité ou de neutralité des services publics. Donc, pour en revenir à la question qu'on nous pose souvent, et alors au niveau des autres États européens, il faudrait faire tout un travail sur leur organisation, sur l'organisation de l'État pour savoir quel rapport ils établissent avec les cultes, mais il faudrait aussi faire toute une analyse des services publics pour savoir si effectivement on peut parler de laïcité. Nous, ça vient vraiment de très très loin, et c'est tout notre droit public, si vous voulez, qui est organisé autour de cette question de la séparation. Alors on pourrait développer la question de la neutralité des services publics. Les services publics doivent être neutres, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être outils de propagande d'une république qui se déclare laïque et qui met en place un ensemble très important de services publics, ne peut pas, sinon elle serait autoritaire, faire du service public un outil de propagande. Cette neutralité des services publics implique forcément la neutralité des agents. Donc là aussi, il y a énormément de choses à détailler. Vous savez que les agents publics ont une obligation de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont une obligation de réserve à l'extérieur, en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Il y a beaucoup de difficultés qui peuvent se poser au niveau de cette question-là, notamment au niveau de la laïcité scolaire. Moi, je vois dans les SP, quand on essaie d'expliquer ça aux futurs enseignants, aux futurs SP, aux futurs CPE, aux futurs professeurs, on leur dit vous êtes tenus à une obligation de neutralité, mais quand même, l'école est fondée quand même sur un socle idéologique très fort, puisque l'école est là pour former des citoyens, transmettre les valeurs de la République, donc c'est pas neutre. Donc il faut quand même que vous transmettiez des choses qui ne sont pas neutres, vous avez une mission qui n'est pas neutre, mais il faut le faire de façon neutre. Voilà, ça, c'est difficile. Voilà, ça, c'est absolument très difficile, mais c'est superbe. Mais voilà, là, on pourra en parler de la formation et de cette question-là. Dans le supérieur, c'est un petit peu différent. Donc voilà, la laïcité, elle est frontière elle-même. Le tout étant de savoir pourquoi elle met en place cette frontière. Je suis convaincue que c'est pour la protection des libertés. Deuxième raison d'aborder la laïcité sous l'angle de la notion de frontière. Eh bien, tout simplement parce que, depuis quelques années, cette frontière donc, entre sphère publique, donc la sphère de l'État, des institutions, des collectivités locales, bref, des services publics, et la sphère privée, c'est-à-dire tout le reste, cette frontière est fragilisée parce que si la laïcité est une valeur admise largement actuellement, le débat n'est plus, ou alors à la marge, entre ceux qui sont pour ou contre la laïcité, il y a encore moins d'accord sur son sens que par le passé. On est tous d'accord, à peu près, sur la France est une république laïque. Le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le sens à donner à cette laïcité. et elle est encore source de beaucoup de polémiques. Et le débat a changé, il est désormais centré, non pas sur l'option nationale laïque, mais sur les conséquences de cette option nationale. Voilà, c'est-à-dire, d'accord, on est laïque, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, quelles sont les conséquences à en tirer? Et là, il y a de grandes divergences. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, rapidement. Parce que déjà, il n'y a pas, dans la Constitution et dans les textes juridiques, il n'y a pas eu la consécration de tous les principes de 1905. Voilà, tous ne sont pas consacrés. On a la liberté de conscience, la liberté de culte, le principe de séparation n'est pas dans la Constitution. Un autre élément, il me semble qu'il y a depuis quelques années un oubli, voire un reniement de la raison d'être de la laïcité, qu'on réduit souvent, comme je vous le disais, à une question religieuse. On entend que la laïcité viserait un œcuménisme religieux, viserait le vivre ensemble. Non, la laïcité, c'est vraiment une question de droit de l'homme. Ce n'est pas une question de vivre ensemble. De toute façon, de fait, nous vivons ensemble, donc il faut être un petit peu plus exigeant. Hein, vivre ensemble, juridiquement, déjà, ça ne veut rien dire. Je préfère parler de république, mais on entend trop ça. Les Syriens vivent ensemble. Hein, bon, voilà. Et alors, une fois qu'on a dit ça, on ne dit rien. Autre élément aussi qui fait qu'on a encore des débats, on assimile souvent la laïcité à d'autres notions en disant la laïcité c'est la liberté. Non, ce n'est pas la liberté, c'est la condition juridique de deux libertés. La laïcité c'est la tolérance, la laïcité c'est le respect de toutes les religions. Tout ça, c'est une déviation, hein, c'est un discours. Voilà, c'est un discours, ça ne peut pas être propice à une appréhension objective de ce qu'est le sens de la laïcité. Et donc, la laïcité conçue en termes de séparation tend depuis pas mal de temps, fin des années 80, je dirais, à s'atténuer, voire à se dénaturer en raison du rapprochement croissant qu'il y a, alors plus dans certains domaines, dans certains secteurs que dans d'autres, entre le politique et le religieux. Rapprochement entre le profane et le sacré, le temporel, le spirituel. Rapprochement que beaucoup de contemporains appellent de leurs vœux. Donc là, on n'est plus dans le domaine juridique, mais on est dans le domaine politique, mais on ne peut pas évacuer hein, le domaine politique. Beaucoup de contemporains en appellent à ce rapprochement au profit de thèmes très à la mode. Exemple, la tolérance, le droit à la différence, la notion de communauté, le relativisme culturel, le multiculturalisme, la notion de diversité, l'inclusion, on le sait, on ne parle plus d'intégration, c'est un gros mot, on parle maintenant d'inclusion. La sémantique est très importante, c'est pas du tout la même chose l'inclusion que l'intégration, mais maintenant, notamment dans les SP, ils sont biberonnés à la notion d'inclusion et on leur dit surtout, il ne faut pas intégrer, on n'intègre pas les élèves, on les inclut. Je citerai une collègue, ces nouveaux concepts nous font entrevoir un autre monde en devenir, sans passé, sans valeur commune, qui est décrit sous la forme du vivre ensemble. Cette notion rejette l'idée même de société en privilégiant le côte à côte, chacun libre de s'organiser en fonction de ses seules croyances et cultures. On peut être pour, là n'est pas la question, c'est la tendance. Et donc cette laïcité, donc stricte, qu'on pourrait considérer comme étant stricte, moi je ne pense pas qu'elle le soit, enfin cette laïcité conçue en 1905, est bousculée par une valorisation plus importante aujourd'hui du fait religieux dans la sphère publique. Le fait religieux dans la sphère privée a droit de citer, c'est son lieu d'expression. Mais c'est une valorisation du fait religieux dans la sphère publique, c'est-à-dire dans la sphère de la République et des services publics, par une considération plus importante de l'État envers les revendications d'expression religieuse dans la sphère publique. Revendications, vous le savez, qui parfois sont des revendications identitaire, communautariste, et sont apparues dans l'abondante littérature sur la laïcité, parce qu'il y a énormément d'ouvrages, énormément d'articles sur cette question-là, des adjectifs, vous le savez, hein, qui qualifient une nouvelle laïcité. Alors ces adjectifs sont des adjectifs très élogieux, je vous en donne. Positive. Alors, laïcité positive, plurielle, ouverte, accueillante, tolérante, modérée, apaisée, inclusive. Donc, forcément, a contrario, l'autre laïcité, elle est forcément intolérante, exclusive, etc., etc. Et donc, on a cette laïcité adjectivée qui a émergé à la fin des années 80. Et là, je vous citerai Robert Badinter, il dit « Méfions-nous des adjectifs, ils sont l'acné du style et servent trop souvent à cacher des arrière-pensées plus qu'à préciser la pensée. Tenons-nous-en au terme de laïcité, tel qu'en elle-même la République l'a forgée au long du temps. » Voilà, il faut se méfier de cette laïcité adjectivée. Et donc, cette entrée du religieux dans la sphère publique interroge donc les frontières de la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité est frontière, mais cette frontière-là devient poreuse. Elle est bousculée, la laïcité. Cette frontière-là est bousculée. Alors, à travers un double processus qui est assez paradoxal, curieusement, puisque d'un côté, on a cette sphère publique, la sphère des services publics, qui est tentée d'accueillir les revendications d'expression religieuse. Je donnerai des exemples après, mais de faire droit aux demandes d'expression religieuse dans la sphère publique. Et puis, d'un autre côté, on a le monde de l'entreprise. Alors ça, c'est vous connaissez le contentieux de la crèche Babylou, ça a été juridiquement, si vous voulez, ce qui a fait émerger cette question-là. Mais on a un monde de l'entreprise qui en appelle au principe de laïcité. Alors juridiquement, la laïcité ne s'applique absolument pas aux entreprises. C'est ça, juridiquement, ça ne s'applique pas aux entreprises. Moi, je passe mon temps à leur dire qu'il ne faut pas qu'ils parlent de laïcité, qu'ils en appellent à la neutralité peut-être, mais surtout pas à la laïcité, parce que juridiquement, elle ne s'applique pas aux entreprises. Mais si les entreprises en appellent à une certaine neutralité, ce n'est pas pour rien. Et paradoxalement, les entreprises qui pensent qu'il faut qu'il y ait une certaine neutralité imposée aux salariés, c'est-à-dire une certaine retenue, c'est cela qu'ils veulent, c'est une certaine retenue dans l'expression religieuse, ces entreprises n'en appellent pas à la laïcité plurielle, elles en appellent à la laïcité séparation. Donc c'est ça ce paradoxe. Des services publics qui s'ouvriraient, si vous voulez, à la réception du fait religieux dans leur sein, c'est-à-dire des services publics qui auraient tendance, voilà, à aller vers une laïcité plurielle, et puis de l'autre côté, une entreprise qui, elle, alors qu'elle n'est pas soumise à ce principe-là, voit dans la laïcité séparation certaines vertus. Voilà, la vertu du silence, peut-être, dans l'expression du religieux. Et donc, c'est ce mouvement paradoxal qui est intéressant, voilà, à travailler et à essayer de comprendre. Alors, c'est vrai que le principe de laïcité a évolué et, alors, à la faveur de jurisprudence du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, cette évolution est allée dans le sens d'une adaptation, voilà, d'une adaptation du principe de laïcité à l'environnement social, voilà, aux revendications, ce qui a limité la portée du principe de séparation en considérant davantage la pluralité et la diversité que la res publica et l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup plus sur, voilà, la diversité, le multiculturalisme, qu'on ne travaille sur ce qui est commun. La laïcité fait une différence, finalement, aussi entre la sphère publique qui est la sphère de ce qui nous réunit, de ce qui nous est commun, et la sphère privée qui est la sphère de nos différences. Elles ne sont pas niées, les différences, mais elles sont dans la sphère privée. Et il y a depuis quelque temps, voilà, une importance plus grande faite à la diversité par rapport à ce qui est commun. Et donc deux ordres juridiques se retrouvent en présence, l'ordre juridique et l'ordre religieux. Et le recteur du Rembrandt-Borgne écrivait « Le droit ne peut échapper à l'affrontement entre une laïcité qui exprime un combat philosophique et politique permanent contre le cléricalisme et tout intégrisme et celle qui entend s'ouvrir aux enrichissements culturels par l'acceptation des différences. » Voilà, et ça, c'est vrai qu'on a un combat entre l'ordre, la règle de droit, voilà, et la règle de Dieu. Si on travaille sur une laïcité séparation, on fait la différence entre la règle de droit et la règle de Dieu. La règle de Dieu ne peut jamais supplanter la règle de droit. Mais si on accommode la règle de droit à la règle de Dieu, alors là, on est sur une conception de laïcité plurielle. Donc juridiquement, c'est absolument très très important. Autre façon de considérer la laïcité à travers la notion de frontière, c'est que les frontières territoriales, alors ça c'est une autre façon de le concevoir, les frontières territoriales de la laïcité sont également interrogées de deux façons. Parce qu'il existe encore des statuts dérogatoires, la laïcité, alors la loi de 1905, voilà, n'est pas, vous le savez, appliquée dans tous les territoires, notamment en Alsace-Moselle et dans certaines parties d'outre-mer. Il y a deux outre-mer, hein, voilà, il y a une outre-mer où elle n'est pas appliquée. Et en 2013, le Conseil constitutionnel avait été saisi d'une QPC, bon, d'une question sur, il devait se prononcer sur la conformité du statut d'Alsace-Moselle où s'applique le Concordat, hein, de 1801 à la Constitution. Il a rendu une décision peu juridique, alors que normalement, il devrait un petit peu faire du droit quand même. Le Conseil constitutionnel a validé, si vous voulez, la constitutionnalité, la conformité du statut d'Alsace-Moselle à la Constitution pour des raisons historiques. Voilà, historiquement, bon, je passe les détails, mais historiquement, ce statut-là est conforme à la Constitution jusqu'à ce que le législateur revienne au droit commun. Donc en fait, il ne m'appartient pas hein, de dire que c'est inconstitutionnel. En revanche, c'est le rôle et c'est la compétence du législateur que de revenir sur le statut d'Alsace-Moselle. Donc c'est une question politique. Elle ne s'applique pas là. Vous savez qu'en Alsace-Moselle, donc c'est le Concordat qui s'applique, hein, les quatre cultes reconnus, donc financés par l'État, etc. L'école aussi a un statut particulier. On a encore le délit de blasphème, hein, normalement qui devrait être abrogé bientôt, j'espère, normalement. Mais même l'Observatoire de la laïcité l'a demandé. Le délit de blasphème, mais comme il y a quatre cultes reconnus à la. Juridiquement, ça veut donc dire, je ne sais pas, moi c'est une question que je pose, qu'on ne peut pas blasphémer hein, le Dieu de ces quatre cultes, mais peut-être qu'on peut blasphémer Allah. Voilà, donc ça pose aussi peut-être une question d'égalité entre les cultes. Là, la Cour européenne des droits de l'homme devrait se prononcer. Il faudrait arriver à la saisir sur cette question-là, parce qu'elle a une jurisprudence très favorable à l'égalité entre les religions. Frontières territoriales aussi parce que, alors ça c'est très important, la laïcité fait de plus en plus l'objet d'une application différenciée par les collectivités territoriales. C'est-à-dire que la laïcité, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des conséquences de l'option nationale laïque, c'est surtout au niveau des collectivités territoriales et des services publics locaux que l'on se rend compte des difficultés à appliquer ce principe de laïcité et plus précisément à appliquer le principe de neutralité des services publics. Et aujourd'hui, le principe de laïcité interroge les collectivités territoriales de façon plus quotidienne qu'il n'interroge l'État. On n'a plus les grands, grands débats qu'on a pu avoir au niveau de l'État, école privée, école publique, bon, ça reviendra peut-être un jour, mais c'est vraiment au niveau local que l'on a de grandes difficultés, puisque nombre de services publics sont impactés et sont confrontés à ces demandes de la part des usagers d'expression religieuse, voilà, dans l'exercice du service public. Et le problème, c'est que pour certains services publics, le droit ne donne aucune solution. Autant pour l'école, les solutions sont données. On a eu la loi du 15 mars 2004 hein, qui interdit donc le signe d'appartenance religieuse pour les élèves, mais pour la restauration scolaire, par exemple, le droit ne dit rien. Et puis, alors, est-ce qu'il faudrait qu'ils disent quelque chose ? Ça, c'est une vaste question. Le droit n'est pas un catalogue de recettes. C'est vrai que très souvent, on aimerait, si j'ai cette demande, qu'est-ce que je dois faire ? Si j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire ? Le droit, c'est pas un catalogue de recettes. Mais parfois, il faudrait peut-être, moi je pense, sur certaines questions, que le législateur intervienne pour au moins harmoniser les réponses. La restauration scolaire, c'est exactement ce cas de figure. Faut-il faire droit aux demandes de repas rituels, de repas cultuels? Faut-il mettre en place des repas de substitution? Est-ce qu'on peut refuser un repas de substitution, etc. Et là, les collectivités territoriales ont donné des réponses très différentes, qui sont toutes conformes au droit. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut décentraliser, en fait? Est-ce qu'il faut décentraliser cette question? Ou est-ce qu'il faut laisser les collectivités territoriales, pour certains services publics, apporter des solutions qu'elles vont prendre en fonction de leur territoire, qu'elles vont prendre en fonction de leur population? C'est vrai que choisir des repas cultuels dans une grande ville avec des banlieues, avec des quartiers, hein, qui sont en demande de ces repas de substitution, elle ne donnera pas la même réponse qu'une commune rurale ou qu'une commune de montagne qui n'aura pas, hein, ces demandes-là. Est-ce qu'il faut une réponse unique sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'il faut laisser les collectivités territoriales décider? Ça, c'est pas, le droit ne dit rien. Voilà. Donc, c'est une question politique. Autre exemple, la question des piscines. Vous savez, les demandes de créneaux hors ouverture au public, des créneaux uniquement pour les femmes. Là aussi, le droit ne dit rien. Donc, les collectivités territoriales peuvent faire droit à ces demandes, tout comme elles peuvent refuser. Dans les deux cas, c'est conforme au droit. Là aussi, ce sont des questions sur lesquelles il faut travailler, sur lesquelles il faut réfléchir, parce que les élus locaux sont confrontés de plus en plus, dans les hôpitaux également. Les hôpitaux sont de plus en plus confrontés à des demandes d'expression religieuse, de rituels, sachant... Alors, à l'hôpital, c'est un petit peu particulier, notamment pour tout ce qui concerne les rites qui entourent la mort. Voilà, parce que là se rajoute la question de la dignité humaine, voilà, qui est une dimension un petit peu plus sensible. Voilà. Mais c'est vrai que dans les services de gynécologie ou d'obstétrique, voilà, ils sont de plus en plus confrontés à des demandes, des refus de certaines femmes d'être suivies par un médecin homme, etc. Ce sont des choses que l'on n'avait pas avant, si vous voulez, des revendications que l'on n'avait pas. Les cimetières. Au niveau des cimetières, il y a des grandes lois de la fin du XIXe siècle qui ont établi le principe de la neutralité des cimetières, c'est-à-dire que toutes les parties communes des cimetières doivent être neutres, mais il y a la liberté des funérailles, donc on peut tout à fait mettre un emblème religieux sur un caveau, sur une tombe. Mais on n'a pas le droit, légalement, de créer des carrés confessionnels, c'est-à-dire hein, des carrés, un carré catholique, un carré, etc. Le problème, sur cette question-là, c'est que depuis 2008, on a une circulaire du ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre des Cultes, qui incite, alors là, juridiquement, c'est intéressant, parce qu'il n'oblige en rien, il n'interdit pas, mais il incite. C'est-à-dire que là, on bascule sur ce qu'on appelle la soft law, c'est le droit mou. Voilà. Donc il incite les maires, dans la mesure du possible, à faire droit aux demandes de création de carrés confessionnels. Donc vous voyez, ces frontières-là sont mouvantes, elles bougent, hein, on ne sait pas trop voilà, où tracer la frontière. On pourrait parler aussi, alors le dernier contentieux, c'était sur l'installation des crèches de la nativité dans les lieux publics. Voilà, alors est-ce que la crèche de Noël, c'est un emblème religieux? Est-ce que ce n'est pas un emblème religieux? On était beaucoup à penser que c'était quand même un emblème religieux, la crèche de la nativité, que c'était important pour les catholiques, que ça représentait un moment important dans leur religion. Le Conseil d'État, en 2016, a rendu un arrêt... Comment vous dire? Je ne sais pas. Une usine à gaz, un petit peu. Hein, voilà, ça dépend. Voilà, la crèche peut être considérée en fonction du lieu où elle est installée comme un emblème religieux, mais en fonction d'un autre lieu, elle peut avoir un caractère alors festif, culturel. Voilà, c'est un arrêt très, 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 très particulier. Voilà, pareil, une jurisprudence du Conseil d'État très... où on voit que la loi de 1905 s'adapte, voilà, où la laïcité, séparation s'adapte aux évolutions de la société. C'est une jurisprudence qui concerne les subventions aux associations. Voilà. Il est possible, même si c'est entouré de certaines conditions, il est possible de subventionner une association mixte, par exemple, qui aura à la fois des activités culturelles et des activités cultuelles, si la subvention va à la partie culturelle et non culturelle. Oui, mais on peut subventionner l'achat d'un orgue dans une église, c'est pas cultuel, c'est de l'intérêt général. Vous voyez ? Donc on glisse, il y a beaucoup de jurisprudence comme ça, où le Conseil d'État a, dans certaines circonstances, considéré que le cultuel pouvait relever aussi de l'intérêt général. Et donc, dès qu'il y a intérêt général, il y a possibilité de subvention. Donc, on est sur une interprétation. C'est vrai que les églises sont de plus en plus des lieux ouverts au public. L'été, il y a des concerts, etc. Donc, le juge, il a dit, oui, on peut tout à fait subventionner l'achat d'un orgue, dans la mesure où l'orgue sert non seulement pour les cérémonies, pour les messes, mais également pour des concerts l'été. Donc il y a aussi quelque part de l'intérêt général. Vous voyez, voilà, il y a pas mal de jurisprudence sur cette question. Alors que faire ? Soit on redéfinit le cadre institutionnel de la laïcité, on opère un toilettage des textes. Beaucoup demandent à ce que la loi de 1905 soit révisée, soit revue. Il y avait le rapport Machelon notamment de 2006. Qui pense qu'il faut revenir sur cette loi pour l'adapter. Est-ce qu'il faut revisiter, comme on dit maintenant, la laïcité, la renouveler en fonction des données nouvelles, ou alors est-ce qu'il faut la penser théoriquement pour que cette traduction juridique corresponde à ses fondements juridiques, c'est-à-dire à sa raison d'être première, telle qu'elle a été construite à la Révolution et puis en 1905. Le choix entre les deux est un choix politique. Le droit ne viendra qu'après, si vous voulez, pour traduire cette volonté politique. Et on pourrait réfléchir, je terminerai avec cette idée forte de Régis Debray, qui bien sûr peut être contestée, mais je vous la livre. L'indécence de l'époque ne provient pas d'un excès, mais d'un déficit de frontières. Il n'y a plus de limite à parce qu'il n'y a plus de limite entre les affaires publiques et les intérêts privés, entre le citoyen et l'individu, le nous et le moi-je, entre l'être et son paraître. Conflit d'intérêts et liaisons dangereuses résultent d'une confusion des sphères. Le principe de laïcité portait un nom, la séparation. C'est le moment d'invoquer le Dieu terme, de relever les bornes et de repeindre les lignes jaunes. Voilà, c'est dans un petit ouvrage qui s'appelle « Éloge des frontières ». À l'époque de la mondialisation, c'est peut-être rétrograde que de parler de frontières, mais voilà, c'était une façon d'envisager cette approche juridique du principe de laïcité.
Voilà. Merci beaucoup.
Je vous remercie.